L'impulsion qui nous a poussés à jeter ce dernier regard derrière nous n'était peut-être rien de plus que l'instinct immémorial de la proie cherchant à évaluer la nature et la trajectoire de son poursuivant. Ou peut-être était-ce une tentative automatique de répondre à la question inconsciente soulevée par l'un de nos sens. Au milieu de notre fuite, alors que toutes nos facultés se concentraient sur les échappatoires possibles, nous n'étions pas en condition d'observer et d'analyser les détails. Et pourtant, même alors, nos cellules grises ont dû s'interroger sur le message que leur transmettaient nos narines. Ce n'est que plus tard que nous avons compris de quoi il s'agissait. Tandis que nous nous éloignions de la bave fétide recouvrant les corps sans tête et que se rapprochait l'entité qui nous poursuivait, le changement d'odeur auquel on pouvait logiquement s'attendre ne s'était pas produit. À proximité des cadavres, la nouvelle et inexplicable puanteur avait été prédominante, mais maintenant elle aurait dû céder la place au relent innommable associé aux anciens. Et pourtant ce n'était pas le cas. Au contraire, la nouvelle odeur, encore moins supportable, était désormais omniprésente et gagnait en nuisible insistance à chaque instant. Ainsi donc nous avons jeté un coup d'œil en arrière. Simultanément, semble-t-il, bien que ce soit certainement le geste de l'un de nous qui a poussé l'autre à l'imiter. Ce faisant, nous avons braqué nos deux lampes torches à pleine puissance au moment où le brouillard se dissipait temporairement, soit par simple désir instinctif de voir tout ce que nous pouvions, soit en un effort plus intelligent, mais tout aussi inconscient d'éblouir l'entité avant de réduire notre lumière et de plonger au milieu des pingouins droit vers le labyrinthe qui s'étendait devant nous. Funeste erreur! Orphée lui-même ou la femme de Lot ne payèrent pas plus cher leur curiosité. Et une fois de plus a résonné ce terrible cri sifflant « Tekelili, Tekelili !» Bien qu'il m'est impossible d'être trop direct, autant être franc, lorsqu'il s'agira d'évoquer ce que nous avons vu, même si à l'époque nous pensions qu'il n'était pas question de dire un seul mot à ce sujet, y compris entre nous. Les mots que le lecteur va découvrir ne pourront jamais, ne serait-ce que suggérer l'horreur de cette vision. Elle a estropié notre conscience de façon si absolue que je me demande comment nous avons conservé assez de présence d'esprit pour diminuer l'intensité de nos torches comme nous l'avions prévu et prendre le bon tunnel pour gagner la cité morte. Ce doit être l'instinct seul qui nous a poussés, peut-être mieux que la raison ne l'aurait fait, bien que si c'est effectivement ce qui s'est produit, le prix à payer a été élevé. De raison, il ne nous en restait que bien peu. Danforth avait les nerfs à vif, et en ce qui concerne le reste du trajet, le premier souvenir que j'ai est de l'avoir entendu psalmodier une litanie hystérique dans laquelle moi seul, de toute l'espèce humaine, pouvais trouver quelque démentielle signification. L'écho s'en répercutait au milieu des cris des pingouins, puis sous les voûtes devant nous, et sous celles qui s'étendaient derrière nous et qui, Dieu merci, étaient désormais désertes. S'il avait commencé un peu plus tôt, nous ne serions pas là pour le raconter. Je n'ose penser à ce qu'une faible différence dans ses réactions nerveuses aurait pu avoir pour conséquence.
Southampton under, Washington under, Park Street under, Kendall, Central, Harvard, South Station under, Washington under, Park Street under, Kendall, Central, Harvard.
Le malheureux récitait la liste familière des stations de métro de la ligne Boston-Cambridge, dont les voies serpentent sous le sol paisible de notre Nouvelle-Angleterre natale à des milliers de kilomètres de là. Et pourtant, à mes yeux, ce rituel n'avait rien d'absurde ni de rassurant. Au contraire, il ne m'inspirait qu'horreur, car je savais quelle analogie monstrueuse, maléfique, la lui avait suggérée. Nous nous attendions à ce que notre coup d'œil en arrière nous révèle une terrible entité surgissant des brumes, avec une rapidité surnaturelle, mais au moins nous nous étions fait une idée claire de son apparence. Ce que nous avions effectivement aperçu au milieu des volutes de brouillard bien trop transparents était tout à fait différent et incroyablement plus hideux et détestable. C'était l'incarnation parfaite, absolument réelle, de ce qu'un écrivain fantastique avait appelé « la chose qui ne devrait pas être ». Et la seule analogie compréhensible serait celle d'une énorme rame de métro lancée à pleine allure, vue du quai d'une station, sa vaste face jaillissant d'une longue distance souterraine, constellée de lumières de couleurs étranges et remplissant ce prodigieux couloir comme un piston remplit un cylindre. Mais nous ne nous trouvions pas sur un quai de métro. Nous étions sur la voie même, juste devant une cauchemardesque colonne plastique d'iridescence noire fétide qui s'écoulait vers nous, occupant les 5 mètres de diamètre du tunnel dans une abominable accélération et repoussant devant elle les spirales de brume qui s'épaississaient à nouveau. C'était une chose terrible et indescriptible, bien plus grosse que n'importe quelle rame de métro. Un conglomérat informe de bulles protoplasmiques, vaguement luminescentes, pourvues de myriades d'yeux temporaires qui ne cessaient de se former et de se défaire, telles des pustules de lumière verdâtre. La créature remplissait le tunnel de sa masse amorphe, écrasant les pingouins pris de folie et ondulait sur le sol luisant qu'elle et ses semblables avaient si diaboliquement bien déblayé de tout débris. Toujours revenait ce cri étrange et moqueur « T'es que Lily, t'es que Lily !» Et alors, nous nous sommes enfin souvenus que les démoniaques chogottes qui devaient aux anciens vie, pensée et plasticité organique et ne possédaient pas d'autre langage que celui qu'exprimaient les groupes de points, n'avaient pas non plus de voix propre et ne pouvaient qu'imiter leur maître disparu.